Je suis Barbara Varin, communicante et chef d'entreprise, et Raconte-moi ton métier, c'est la nouvelle chronique mensuelle dédiée à l'entrepreneuriat et aux entrepreneurs sur FM+.
Je souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur.
Et bonjour, Barbara Varin, heureuse de vous retrouver pour cette seconde édition de Raconte-moi ton métier, où nous partons à la rencontre donc d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, inspirants, inspirantes, à l'instar, cette fois-ci, de Julie Daté, fondatrice de Bulles & Mailles. Julie, merci d'avoir répondu présente à notre invitation.
Ben, merci à vous.
Alors, vous allez nous présenter, bien sûr, votre entreprise, votre personne, si je puis dire, votre parcours. Alors, vous êtes, comme je le disais, fondatrice de cette entreprise qui s'appelle Bulles & Mailles. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots, s'il
oui.
vous plaît.
Donc, déjà, bonjour à tous. Donc, Bulles & Mailles, c'est une savonnerie artisanale qui a vu le jour en 2017. Je l'ai créée en novembre 2017. Et donc, c'est, la particularité, c'est qu'en fait, j'ai une double activité. C'est-à-dire que je fabrique des savons et des cosmétiques, mais je travaille également avec les autres savonniers professionnels pour leur fabriquer tout le matériel nécessaire à la fabrication de savon, c'est-à-dire les moules, les découpeurs, etc. Mmh. Donc, j'ai mon laboratoire de fabrication de cosmétiques et j'ai également, du coup, un atelier de menuiserie pour toute la partie matérielle.
Alors oui, justement, vous avez eu l'idée audacieuse d'associer savonnerie artisanale et menuiserie. Comment ces deux univers dialoguent-ils entre eux ?
Eh bien, c'est assez... Alors, c'est vrai que quand je présente mon activité...
Ah mais c'est super.
Le rapport ne se fait pas forcément tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai lien, puisque du coup, ce qui fait que j'ai su m'adapter très rapidement aux autres savonniers, c'est qu'étant savonnière moi-même, je connais les difficultés et les problèmes techniques qu'on peut rencontrer, ou les besoins, en tout cas, en fonction des productions. Et donc, du coup, tout s'est fait un peu comme ça, naturellement, où quand on vient chez moi pour le savon, on vient aussi pour de l'accessoirisation, parce qu'ils savent que j'ai un atelier de menuiserie, donc les petits accessoires en bois, etc. Et inversement, les pros qui viennent pour leur matériel, ils savent qu'ils auront des vrais conseils techniques, une vraie expertise du coup de ma part, puisque je maîtrise du coup les deux univers.
Et oui, ces deux univers qui finalement, on le voit bien, ont des liens, des dénominateurs communs certains. Alors tout de même, d'où vous est venue cette envie de fabriquer vous-même le matériel pour les savonniers? C'est justement par souci, par opportunité, si je puis dire. J'imagine que vous avez aussi une appétence, bien entendu, hein, parce que vous êtes alors une manuelle, une artisan vraiment talentueuse, mais aussi une intellectuelle. On en parlera avant, parce que vous avez eu une carrière avant cela, parcours très original. Mais donc oui, vous avez cette double appétence tout de même.
En fait, à la base, mon projet, c'était vraiment que la savonnerie. Donc, lorsque j'ai fait mon étude de marché, etc., avec la Chambre des métiers, en fait, au bout de la fin de l'étude de marché, il me dit, bon, voilà, ça va être compliqué financièrement de te sortir un salaire rapidement. Il faudrait étoffer un peu le projet. Donc, il savait que parce que je travaillais à l'époque aussi la laine. Donc, le matériel venait pour la savonnerie des États-Unis et pour la laine de l'Australie. Mais en Europe, c'est vrai qu'il n'y avait rien. Et donc, il me disait, voilà, importe à la rigueur du matériel des États-Unis. Et comme ça, tu vas pouvoir proposer... Dans ma tête, c'était inconcevable que j'importe du matériel des États-Unis pour le proposer ici. Donc, je me suis dit, bon, je vais les fabriquer, sauf que je n'avais pas de connaissances du tout dans le milieu.
Oui, mais vous êtes formée, d'ailleurs.
Donc,
avec,
du coup, je suis partie. Voilà,
j'ai
quitté mon travail et je suis partie me former en Lozère.
Oui.
J'ai passé un CAP menuiserie pour pouvoir fabriquer mon propre matériel et proposer de la fabrication française. Pour moi, c'était hyper important de pouvoir, dans le cadre de... En tout cas, quand on part dans l'artisanat, que ce soit cohérent, que tout le projet soit cohérent et que si je proposais des services à d'autres, aux professionnels, que je ne leur propose pas du matériel venu de partout dans le monde, sauf de chez nous, quoi.
Et justement, c'est cela aussi qui nous a vraiment, plus qu'inspiré à FM+, où il y a un souci, en tout cas, de sens. C'est votre recherche vraiment de valeur. Et votre parcours, justement, montre une vraie exigence éthique, si je puis dire, sans que le mot soit galvaudé. Donc, produit certifié bio, on va y revenir. Fabrication française, hein, là, on est en plein dedans. Circuit court, tout est là aussi. Et là, on ne peut pas faire plus court, si je puis me permettre. Alors, peut-être que vous importez le bois, j'imagine.
Oui, oui. Alors, quand je peux travailler avec des essences locales, je le fais, bien évidemment. Après, c'est vrai qu'il y a certains matériaux, certains contreplaqués qui ne sont pas produits en France et donc qui doivent être importés. Mais c'est vrai que dès qu'en tout cas, je peux travailler avec en local, c'est ce que je fais par exemple pour tout ce qui est l'herboristerie. J'avais travaillé avec un herboriste en menuiserie pour travailler. J'avais fabriqué des armoires de séchage. Du coup, je passe pas pour les plantes, etc. Donc, c'est vraiment dès qu'on a l'opportunité, c'est vrai qu'on essaie de faire travailler en
local vraiment des artisans. Alors, justement, vous êtes certifié, vous êtes labellisé artisan d'art. Vous parliez de ce CAP que vous avez passé sur le tard. Alors, justement, c'est un peu. Et c'est pas du tout péjoratif. C'est le mode un peu beau parce que je vais d'ailleurs y venir. Avant d'être artisan d'art et donc premium, vraiment avec une qualité, une expertise qui est vraiment reconnue, un savoir-faire sur la France entière et au-delà, vous étiez dans l'immobilier. C'est-à-dire que sans faire le. Voilà, vous avez fait. Sans être élitiste, encore une fois, mais des études supérieures, vous étiez dans l'immobilier, vous avez une carrière prometteuse, mais vous avez voulu, ça se fait dans certains milieux, parce que vous êtes quelqu'un de très réfléchi et l'artisanat d'art, vous avez encore une fois atteint un niveau d'excellence, était pour vous c'était en fait un peu votre voie. Alors qu'est-ce qui vous a tout de même, parce qu'il faut du courage, vous a poussé à tout quitter pour, on peut le dire, changer radicalement de voie, d'une carrière prometteuse dans l'immobilier ou dans le business, comme on dit, femme d'affaires, working girl, vous l'êtes toujours, mais vraiment avec en tant qu'artisan, artisan d'art, quoi.
En fait, c'est lorsque j'ai commencé, j'avais pas mal d'activités manuelles à côté de mon travail, et lorsque j'ai vu que dans ma tête, les projets créatifs commençait à prendre beaucoup de place et que au niveau de mon travail j'ai ce souci en fait de d'avoir besoin de maîtriser les domaines dans lesquels j'évolue et c'est vrai que à l'époque j'avais un peu atteint le maximum de ce que je pouvais atteindre je pense en termes de connaissances je maîtrisais vraiment le sujet et du coup je pense que la bascule vers l'artisanat était assez naturelle. J'avais plus besoin de me prouver en fait que je pouvais utiliser mon cerveau. Oui. Je l'avais fait, c'est surtout ça. Oui, en fait, à la base, je viens de la restauration. J'ai fait des études de langue qui m'ont permis de bouger en Angleterre, etc.
Oui, j'ai vu. Vous avez une fibre internationale multiculturelle.
Et ça, du coup, génial. Donc là, lorsque j'ai arrêté le bar, c'était parce que j'avais besoin de me prouver que j'avais aussi un cerveau et que je pouvais. Donc, je suis partie dans l'immobilier, mais comme j'aurais pu partir dans la banque.
Vous êtes multipotentielle.
Oui, je crois. Mais une fois que j'ai compris que tout allait bien, que j'avais plus rien à me prouver, c'est surtout ça en fait, je pense. J'avais plus rien à me prouver, j'avais plus besoin qu'on me dise c'est bien, Julie, ce que tu fais.
Plus de besoin de validation extérieure.
Exactement. Oui. Et du coup, vraiment les projets que j'avais en tête, j'y pensais en permanence. Donc je me suis dit, finalement, t'es bien en travaillant avec tes mains. J'avais besoin aussi d'avoir un résultat. Oui. De le voir.
Oui,
parce que quand on travaille sur, que ce soit dans l'immobilier ou les métiers comme ça, un peu de bureau, je parle sans que ce soit péjoratif, bien évidemment, on n'a pas de résultats concrets. C'est-à-dire le dossier, on classe, on passe au suivant. Enfin, alors que là, quand je fabrique, je parle de la matière brute et j'arrive à quelque chose, visuellement, je me dis, ça y est, c'est fini, c'est moi qui... Voilà.
Et oui.
Et ça, en fait, je pense que j'en avais besoin à l'époque de retrouver ces sensations de fabrication, de création que je n'avais pas forcément dans mon métier.
Et oui, parce qu'en effet, ce souci donc de matérialisation, comme vous dites, de concrétisation, c'est certes donc lié à un métier manuel, mais pensé. Parce qu'on peut faire, et justement, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, pour être artisan d'art. On fait aussi, bien sûr, travailler sa tête, son cerveau, surtout si je puis dire, et sans dénigrer quiconque, à votre niveau, parce que vous êtes encore une fois labellisé artisan d'art, vous avez obtenu la mention bio, nouvelle cosmétique, m'abuse. Ouais. Enfin, je veux dire, vous êtes allé loin. L'un ne va pas sans l'autre, j'ai l'impression, à un certain niveau.
Et c'est surtout, j'en profite, vraiment, au niveau de l'artisanat, je pense que c'est important. Moi, je l'ai vu quand j'ai passé mon CAP, j'étais avec que des jeunes. J'étais un peu la doyenne j'étais avec des jeunes de 14, 15 ans. Et à qui on avait dit, c'était vraiment, bon, t'es là parce que t'es nul. Mmh. En gros, c'était vraiment le message. Et, oui, et c'est le message qu'ils avaient. Alors que vraiment, j'insiste, l'artisanat, c'est de l'or. On a de l'or entre les mains. Ce qu'ils faisaient, enfin, je veux dire, un gamin de 15 ans qui fabrique un escalier, il n'a pas beaucoup.
Oui.
Et donc, c'est vrai que moi, voilà, cette année-là, j'ai vraiment utilisé aussi pour leur faire comprendre que c'était des personnes bien, que ce qu'ils faisaient, c'était énorme.
Oui.
Et qu'on n'avait pas besoin d'être dans une classe et d'avoir des bonnes notes pour être quelqu'un et pour faire quelque chose de sensé dans sa vie.
Et oui,
et
oui,
voilà. Et je pense que l'artisanat, il faut vraiment qu'on ramène cette image de qu'on revalorise.
Oui,
davantage ces métiers-là parce qu'ils se perdent en plus.
Et
donc,
oui, bien sûr. Alors, il faut quand même un talent. C'est une vraie question. Hein. À la base, même si ça peut.
Alors, c'est pas forcément un talent.
Qui peuvent s'acquérir, oui.
Non,
d'accord.
Ouais, je pense que c'est vraiment juste. C'est des métiers passion, en fait.
Ah, ben ça, j'imagine.
À partir du moment où la passion vous guide, franchement, vous pouvez faire des merveilles. Enfin, moi, franchement, j'avais des problèmes de visualisation dans l'espace.
Oui.
J'ai fait vivre l'enfer.
Comme quoi
J'ai fait vivre un enfer à mon prof.
C'est encourageant.
Et à tous mes maîtres de stage. Ah ouais, non, mais c'était l'enfer. Et donc, comme quoi, voilà. Donc, mais avec la persévérance, mais parce que voilà, j'aimais ce que je faisais. Et les jeunes, il faut vraiment qu'ils se lancent dans ces voies-là. Parce que, parce que vraiment, c'est prometteur, parce que c'est très enrichissant, et parce que ce n'est absolument pas dévalorisant, contrairement à ce que malheureusement, on leur dit aujourd'hui. Quoi.
Et oui, alors bon, on ne va pas, bien sûr, refaire le monde, mais c'est vrai que c'est surtout. Non, mais vous avez raison de le rappeler, mais on peut tenter de changer quelques mentalités françaises. Hein, c'est toujours un petit peu le même débat. Mais en Allemagne, les métiers justement manuels sont vraiment valorisés. On leur redonne leur lettre de noblesse. L'Allemagne, mais c'est un exemple parce que c'est un pays très proche de la France, mais dans bien d'autres pays. Voilà, mais c'est vrai que la France, on a encore à travailler là-dessus, clairement. Pourtant, il y a encore les compagnons du devoir aussi. Ce sont des filières d'excellence. Puis voilà, puis l'artisanat d'art, c'est encore une fois un label vraiment qui montre un savoir-faire précieux, rare et précieux. Alors, je vais revenir sur Bunemaille plus spécifiquement, Julie. La question qu'on a dû vous poser 100 fois, 1000 fois, mais pourquoi ce nom? Quelle symbolique, se cache derrière Bunemaille?
Alors, c'est vrai que c'est... Alors, à la base, donc, la bulle, bon, c'est assez facile à comprendre. Ça représente le savon, le milieu de la savonnerie.
Jusque-là,
OK. Et la maille, à la base,
en tout cas.
Normalement, c'était pas... Enfin, aujourd'hui, je le présente différemment, mais je suis obligée de raconter la vraie histoire derrière à chaque fois, parce que je ne peux pas mentir. Mais la maille, à la base, ça représente la laine, parce que je travaillais aussi la laine lorsque j'ai monté mon entreprise. Et je voulais vraiment partir sur ces trois domaines. Donc, c'était la menuiserie, le travail de la laine, parce que je partais de la matière brute. Je cardais, je filais, j'ai un rouet, vraiment comme la Belle au Bois Dormant, Et du coup, la maille, ça représentait le travail de la laine. Sauf que très rapidement, j'ai bien compris que je ne pourrais pas tout faire et que le travail de la laine, c'était plus la passion, mais en termes de rentabilité, quand on parle aussi en entreprise, l'objectif, c'est qu'elle soit viable. Donc, du coup, j'ai dû laisser tomber le travail de la laine, mais du coup, j'ai basculé sur la maille du bois. Donc, c'est ce qui m'a sauvée.
La maille du bois. Je ne connaissais pas cette signification. Je suis profane.
Lorsque vous regardez une planche et vous voyez un peu les dessins, ce sont les dessins qu'on retrouve sur le bois, et c'est ce qu'on appelle la maille.
Ah oui.
Donc aujourd'hui, ça reste cohérent.
Ah mais c'est moi qui suis profondément inculte. Moi, je pense à des nervures ou des. C'est la maille, c'est le terme. D'accord, très bien.
Je m'en suis bien sortie.
Encore quelque chose.
Je m'en suis bien sortie sur ce coup-là, et du coup, bulle et maille, c'est cette signification-là. C'était ça.
Ah super, en tout cas ça sonne bien, on s'en rappelle ça. Ah ouais, non, bien. Donc c'est même pas un publicitaire qui vous a soufflé le nom.
Après, c'est vrai que c'est. Moi, c'est assez long, mais bon, sur le moment, moi je recontextualise toujours quand on prend des décisions à un instant T. Et à cet instant-là, je me suis dit que c'était. C'était assez représentatif.
Ah oui, puis ça fait 8 ans que ça dure et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, bon choix, si je puis me permettre, qui reste toujours cohérent. Alors, Julie, je vous avoue, j'ai glané un petit peu à travers le web, qui est pour ma part un peu mon métier. Et alors, on va voir s'il y a des bêtises, parce que des fois, c'est le cas. Donc, j'ai trouvé quelques informations à votre sujet. Okay. Alors, à vous de déconstruire. Non, rien de choquant, sinon vous m'arrêterez. Alors, j'ai vu que, à l'origine donc de cette nouvelle carrière, tout était parti d'un constat très personnel. J'en avais marre d'être malade en faisant le ménage.
Tout à fait. Pour la partie savonnerie. Okay.
Ouais. Oui. Alors, pouvez-vous nous raconter ce déclic ?
En fait, lorsque... alors, c'est vrai qu'à chaque fois que je faisais le ménage, j'étais malade, mais vraiment malade. Je devais m'allonger dans le canapé. J'avais des nausées. Enfin, vraiment, c'était l'enfer. Bon, j'avais banalisé ça en me disant, bon, bah, les produits sont forts, tant pis. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. C'est pas possible. Je peux pas me tuer la santé juste parce que je veux nettoyer mon sol, quoi. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à chercher des alternatives naturelles, donc bicarbonate de soude, etc. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet. Et là, j'ai vu qu'on pouvait effectivement faire ces produits d'entretien. Donc, j'ai commencé comme ça. Mais qu'on pouvait aussi faire ces cosmétiques. Je suis, ah, tiens, c'est marrant. Donc, j'ai commencé à mettre le nez dedans. Et puis, j'ai vu qu'on pouvait faire ces savons. Je suis, oh, mais c'est génial.
Mm-hmm. Et donc, voilà. Do it yourself, les fameux.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est vrai que. Un peu comme nous, Bobo, comme on fait parfois.
C'est exactement ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais. Et donc, j'ai fait. Mes premiers savons, et c'est vrai que je suis tombée complètement amoureuse du process et de tout le potentiel de créativité que cela amène, parce qu'on vraiment, quand on part, en tout cas, ma méthode de fabrication, on part vraiment des matières brutes, et c'est nous qui déterminons ce qu'on va mettre dedans, la richesse du produit, etc., contrairement aux industriels.
Oui.
Ils n'ont pas de marge de manœuvre parce que ça doit passer dans les machines. D'accord. Donc, ils enlèvent tout le gras, ils enlèvent toute la glycérine. Mm-hmm. Le produit est assez fade au final. D'accord. Et très peu bénéfique pour la peau, il faut le savoir.
D'accord.
Nous,
d'accord.
Par exemple, c'est pour ça que ça reste de l'artisanat, parce que nos produits sont tellement gras et bons que du coup, ça ne passe pas dans les machines. Mm-hmm. Donc, c'est un travail manuel.
D'accord. Voilà. Alors, bon, c'est encore une fois, je suis profondément inculte et je ne veux pas d'ailleurs faire de pub ou de contre-pub, mais je pense, moi, des savons comme Dove, et promis, ce n'est pas du tout un placement de produit, mais qui apparaît comme ça, comme on le voit dans les publicités, avec plutôt naturel, un quart, je crois, de crème hydratante, quelque chose. Bon, sans du tout, voilà, encore une fois,
critique. Non, mais c'est important.
Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que des fois, il y a tout de même des industriels qui peuvent avoir des... Enfin, ce ne sont pas que des promesses, que des illusions ? Est-ce qu'il n'y a pas des gammes qui restent quand même... honnête, correct, non.
Dans l'industrie, honnêtement, j'en connais pas.
Ok.
Peut-être.
Ouais, non, mais d'accord. Je non, mais je remercie de votre tranchée.
Honnêtement, j'en connais pas. En fait, ils ont un marketing de dingue qui consiste à dire, en gros, si vous voulez, ils partent d'une base de savon qu'on appelle du baudillon. Donc, ce sont des copeaux de savon qu'ils achètent à bas prix.
Baudillon, vous dites.
Ouais, les baudillons.
Baudillon, d'accord.
Ce sont des copeaux de savon fabriqués avec des matières premières bas de gamme et qu'ils vont refondre.
Oui.
Et ils vont rajouter, par exemple, 2% de glycérine, 3% de karité. Ils vont pouvoir dire, regardez, j'ai un savon au beurre de karité, alors qu'en fait, il n'y aurait que 3% dedans.
D'accord,
là où un savon artisanal, moi, j'en mets 40%, par exemple.
Ah oui, oui, en effet. Voilà. Ah oui, les proportions, on n'est pas du tout sur le même delta.
Voilà.
Ah, oui,
donc, c'est ça, en fait. C'est...
Ah, oui,
je ne peux pas dire que c'est du mensonge qu'ils font. C'est juste que...
C'est un argumentaire marketing qui est clairement galvaudé. Ouais. D'accord, très bien. Très bien. Bah, merci Julie. Alors, on va faire une petite pause, une petite pause musicale, avec, bon, comme c'est comme d'habitude, si je puis dire. Alors, vous avez choisi un morceau. Est-ce que vous pouvez nous dire lequel est-ce, s'il vous plaît ?
Alors, c'est la chanson Positif de Matt Houston.
Ok.
Parce que je trouve qu'elle caractérise... Alors, déjà, elle me caractérise. Dès que j'ai un coup de mou, je l'écoute.
Okay. Et ça marche bien, du coup.
Et ça marche bien. Non, mais c'est assez représentatif, parce que ce soit l'artisanat, enfin, le métier de savonnière, parce qu'il y en a quand même beaucoup de femmes à le pratiquer, ou l'artisanat en général, on doit faire preuve d'une résilience assez, assez incroyable. Oui. Et cette chanson-là, c'est vraiment un moteur. C'est en mode, allez, c'est dur.
Oui.
Si tu tombes, il faut vraiment que tu te relèves, lâche pas l'affaire, continue de croire en toi, continue d'avancer. Et c'est ça ce que j'aime dans cette chanson, c'est qu'elle me redonne la pêche et je me dis, bon allez, aujourd'hui ça va pas, mais demain est un autre jour.
Ok, donc positive attitude,
c'est ça.
Je note la référence et je vais écouter avec grande attention. Ben, on se retrouve dans quelques minutes. Merci Julie, à tout de suite.
Papa t'a dit de ne pas plier, non faut pas plier, oh non faut pas plier, je sais, faut pas oublier, oh, 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 oh. Rester positif dans nos têtes, faut pas oublier, oh, 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 oh. My brother, my sister, même si c'est pas easy, oh, 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 oh. Rester positif dans nos têtes, faut pas oublier, papa t'a dit de ne pas plier, plier. Ne laisse pas tomber, non, la laisse pas tomber. Même si dans la vie, les choses sont dures et que c'est la détresse. Si la crise progresse, c'est qu'on laisse les mauvais gouverner. Tu dois faire les bons choix. Le Saint-Père fera le reste. Même si t'as pas beaucoup de money,
jolie. Les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves again. Tu réessayes again, again and again and again. Faut pas oublier. Restez positif dans nos têtes. Faut pas oublier. My brother, my sister, même si c'est pas easy. Restez positif dans nos têtes. Faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas plier. Pour défouler, il faut danser. Si plus rien ne va dans ta vie, tout simplement, faut écouter. C'est le remède qui te remonte illico. Alors que dis-tu venir le tester? Oublie tes problèmes et viens donc me follow. Ouais, c'est si easy, c'est si easy. Même si t'as pas beaucoup de money, t'as besoin de Lamborghini. Laisse ceux qui ont besoin de salami pour pouvoir exister. Et quant à toi, ma jolie, les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves again. Tu réessayes again, again and again and again. Faut pas oublier. Restez positif dans nos têtes. Faut pas oublier. My brother, my sister, même si c'est pas easy. Restez positif dans nos têtes. Faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas oublier. Essayez.
Et tout story missé. This music you know me today. They start like play play for France. Who don't they throw away? So make una seriously. Die for my business, yeah. And make we they try to they rejoice, yeah. Why? Cause you know easy, yeah.
You know easy.
Even if you don't get money, yeah. They jolly they shake body. Cause the way you they vex, they complain. Yeah. If you know be God way, yeah. Now zombie be dead body. Yeah. Nobody be no baby. And when you fall, you go stand up again. You try them again, again and again and again. Cause it no easy, yeah. For Peter and Paul, I'm a twisting, it no easy, yeah. My brother, my sister, now for Paris we dey. If we good do a bad day, make we the tango day. Baba God, now your hand work, yeah.
Faut pas oublier. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier.
Et on se retrouve, Barbara Varin avec Julie Daté, raconte-moi ton métier. Julie, donc fondatrice de Bulle Émail, une entreprise donc artisanale pas comme les autres. Et Julie qui a donc un parcours atypique. Après une brillante carrière donc dans l'immobilier, dans la restauration, elle s'est reconvertie dans l'artisanat d'art. Donc on reprend en effet le fil de ce parcours vraiment inspirant. Alors justement, Julie, qu'est-ce que vous diriez à celles et ceux qui rêvent de changer de vie, mais qui n'osent pas franchir le pas? Parce que vous étiez en plus, si je puis me permettre cette petite pointe de votre vie, vous étiez en plus maman, voilà. Bon, et vous avez, enfin peut-être pas à l'époque,
c'était pas à l'époque.
Ah ouais, mais vous l'avez été en plus.
Ouais.
Ah ouais, c'est encore plus challengeant.
Ouais. Ouais, okay. Ouais, j'avoue.
Non, mais c'est challengeant. Mais donc voilà, mais vous avez franchi le cap et vous avez maintenu ce cap malgré, malgré la vie de famille qui prend du temps. Alors qu'est-ce que vous leur diriez?
Je leur dirais de s'assurer d'être très bien entourée. Mais vraiment, c'est la base. Je sais que sans le soutien de mon mari, mes proches, on dit souvent, c'est pas tes amis qui te font vivre. Et au début, moi, si. Très clairement.
Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Parce que votre conjoint est aussi votre meilleur ami quelque part.
Voilà, les amis, l'entourage, ceux qui croient en vous, qui vous portent et qui vous disent, allez, lâche pas. Et puis, cette année, je vais prendre tous mes savons chez toi pour faire mes cadeaux. Et voilà. Donc, c'est vraiment être bien entouré. Ça, c'est important parce que sans ce soutien-là, c'est vraiment très difficile. En fait, être chef d'entreprise, quand on se lance, mais peu importe l'entrepreneuriat, c'est faut être multicasquette.
Oui.
Et pourtant, j'étais prête. Je me pensais prête. Je pensais maîtriser. Pas maîtriser le sujet, mais en tout cas avoir pleinement conscience de ce qui m'attendait, et franchement pas du tout. Donc
Il y a eu des défis, des obstacles vraiment auxquels vous semblez avoir la tête sur les. Mais il faut être résilient, comme vous disiez.
C'est exactement ça. Ça, et puis s'y connaître vraiment surtout, parce que même si on travaille, on travaille avec des gens, il faut quand même s'y connaître en compta, en juridique, en marketing, en.
Oui.
quand on a son site internet, voilà, faire tout ça. Enfin, c'est vraiment, c'est hyper lourd.
Vous et avez du coup, un très beau site d'ailleurs.
Ah, merci. et donc voilà, donc ce serait déjà ouais, donc bien entouré et surtout avoir une enveloppe financière assez importante.
Vous diriez qu'il faut quand même avoir un petit billet d'avance, un petit
Vraiment se lancer comme ça. Alors après, il y en a qui réussissent et qui. Très sincèrement, il y a tellement d'aléas, il y a tellement de choses qu'on ne prévoit pas quand on se lance. Et c'est pas forcément que la première année.
Oui, c'est vrai qu'on pense souvent de la première année.
C'est ça surtout. Et c'est qu'il faut penser, voilà, surtout si on est seul, voilà, il faut vraiment anticiper sur, moi je dirais 3 ans.
D'accord.
La problématique du revenu, enfin en tout cas.
Oui, des questions qui se posent. Trésorerie.
Voilà, la trésorerie.
Ouais, d'accord.
C'est vraiment les deux choses sur lesquelles j'insisterai. Par contre, après, il faut se lancer, etc. Oui.
Oui, d'accord.
Mais il faut le faire quand même.
Pas sur un coup de tête.
Voilà, c'est ça. Après, il y en a, c'est des besoins, etc. Mais, mais vraiment, ouais, être bien entouré et avoir une enveloppe financière assez importante à la base.
Oui, d'accord. Ouais. D'accord. Et, aussi, comme vous disiez, des compétences métiers que vous possédiez ou que vous avez acquises, mais aussi s'entourer d'un expert comptable, par exemple, en tout cas d'un bon coach financier ou en stratégie marketing. Voilà. Et oui, tout à fait. On peut pas tout faire tout seul,
Alors moi, c'était ma problématique parce que j'ai beaucoup de mal à déléguer.
Oui, ok.
Donc, je me suis très vite retrouvée un peu saturée. Et vraiment, on ne peut pas tout faire. Donc, il faut vraiment apprendre. Et le problème, c'est que quand on délègue, on délègue pas forcément une personne. Quand on ne s'y connaît pas, quand on démarre, on fait confiance un peu. Enfin, on est un peu naïf.
Oui, alors vous n'avez pas l'air d'être naïve, mais...
Je ne pensais pas que je le serais. J'étais la première à juger. J'avoue, j'étais la première à juger quand les autres entreprises qui avaient eu des trucs assez improbables, on me disait, comment on peut tomber dans ce panneau-là. Je suis tombée dedans.
Oui, vraiment des personnes malhonnêtes, sans être... Ou en tout cas incompétentes. Bon, ça, je veux bien...
On ne peut pas forcément le dire. Mais j'ai eu droit aussi à... Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que les artisans que je rencontre et qui sont là depuis 20, 30 ans, qui me disent... Julie, on l'a tous fait. Ça.
On
est tous passé par là. Moi, j'étais là, mais tu te rends compte. Donc, vraiment, voilà. Donc, c'est... C'est pour ça que je dis qu'il faut, s'y connaître quand même dans tous les domaines parce que même si on travaille avec des gens qui sont censés être spécialisés dans leur domaine, ils ne le sont pas forcément.
Donc,
il faut toujours avoir un œil dessus.
Moi, je suppose que ça vous est aussi arrivé, mais au début de ma vie d'entrepreneuse, où je recevais des courriers comme quoi, obligation de panneau d'avis, moyennant 100, 200, 300 euros. Et des fois, il y en a qui le font très bien, qui se font passer pour des institutions, je dirais, ou en tout cas des entités étatiques, si je puis dire. Et voilà. Et ça m'est arrivé une fois ou deux de mettre un billet, alors qu'il y en a qui le font très bien. Donc, vigilance à un tout nouveau entrepreneur. Ensuite, on réfléchit à deux fois.
Mais quand on se lance, il y a tellement de pression. Alors moi, j'avais été vraiment très, très bien accompagnée par la Chambre des métiers.
Oui, d'accord,
j'avais fait un stage...
Super. De Montpellier, du coup
J'avais fait un stage qui est plus obligatoire. Je trouve ça dommage, si je peux me permettre. Oui. Qui était obligatoire, en fait, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. On avait l'obligation de suivre un stage de 5 jours pour voir un peu toutes les facettes du métier de chef d'entreprise, parce que c'est un métier en soi,
bien sûr,
plus du métier qu'on va exercer. Et je trouvais ça... Et moi, c'est ça qui m'a sauvée, parce que vraiment, ils nous alertent. Ça a été du matraquage, en mode... Ne signez rien, ne payez rien sur les 6 premiers mois. Vous allez recevoir des courriers.
Oui,
et donc moi, ça m'a sauvé. Et c'est vrai que
ça a été un bon conseil.
Conseil
à marteler et qu'il faut marteler d'ailleurs.
C'est ça qu'il faut marteler. Quand on se lance, ne signez rien sans être sûr de ce que c'est.
Tout à fait. Toujours cette base de vérification. Et je sais que la Chambre des métiers, alors notamment pour les artisans ou les proposer ces stages obligatoires, mais qui étaient, et vous dites, ça n'était pas vain, quoi. Il y avait une réelle utilité. Ce n'était pas ça un jour théorique. Enfin, ça a l'air d'être très pratico-pratique, justement.
Parce que ça permettait aux gens qui n'étaient pas sûrs de se rendre compte que finalement, ils n'étaient pas prêts pour faire tout ça. C'est ça aussi. Ça permettait aussi à des gens d'éviter de se casser la figure. Potentiellement, c'était vraiment leur futur proche. Et donc, c'est finalement, je ne vais pas le faire maintenant ou je verrai plus tard. Et ceux qui étaient vraiment, qui voulaient s'en comme moi ou qui étaient persuadés qu'on partait dedans, au moins, on était quand même assez bien encadrés dans ce démarrage qui est quand même... moi, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Quand on se lance seul, le premier jour où j'ai eu mon local, un local vide, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait tout est... c'est l'inconnu, tout paraît immense, tout paraît... Donc, ouais, je pense que moi, cet accompagnement m'a beaucoup aidé. Et
oui, mais on sort justement de cette zone de confort. Et finalement, 8 ans après, vous ne le regrettez pas.
Non.
Hein, c'est un. Hein, j'ai pas l'impression. Ouais,
hein. Non, c'est une vraie liberté. Moi, c'est la liberté que je recherche. Hein, c'est pas...
Sans forcément travailler moins, mais la liberté quand même.
Oui.
Non, mais ouais, je dis, on se comprend.
Complètement.
Mais c'est un choix quelque part que de travailler plus et faire ce travail passion avec sa part de compte.
C'est travailler plus, mais. Sans que ça nous soit imposé.
Oui,
ça,
fait.
Moi, c'était important, ça.
Je comprends. Je ne peux que comprendre. Alors, Julie, on va rentrer un petit peu dans les gammes, hein, en tout cas ce que vous pouvez dévoiler, parce qu'il y a des gammes exclusives ou justement, il y a des recettes, je dirais, secrètes que vous composez spécialement pour vos clients selon leur cahier des charges, leur doléance, mais aussi vous êtes force de proposition. Donc, vraiment, il y a beaucoup de gammes donc personnalisables, je dirais presque à l'envie, parce que vous avez vraiment, d'ailleurs vous êtes une experte nationale, enfin connue et reconnue pour cela, mais par rapport à ce dont vous pouvez parler, bon, on va rester assez généraliste, mais donc vous proposez aussi des produits personnalisables, comme je viens de le dire, pour les hôtels, gîtes et commerce peut-être un peu, je ne sais pas si on peut parler de luxe, mais quand même très, très spécifique. Ça, je crois que c'est une partie de votre clientèle importante. Alors, comment se passe cette collaboration avec les professionnels je crois que d'ailleurs que ça se passe très bien. Mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Comment concrètement, je suis propriétaire d'un gîte, d'un hôtel, je veux faire ma gamme. Comment ça se passe? Comment je peux faire?
Alors, il y a plusieurs possibilités, soit on part de ma gamme, puisque j'ai une gamme de savons et cosmétiques déjà que je propose. Mm-hmm. Donc on part de ma gamme et on appose leur marque sur ma gamme. Mm-hmm. C'est comme ça évite, ça fait des frais en moins et c'est surtout, ça reste une gamme personnalisée à moindre coût, on va dire.
C'est la marque blanche, c'est ça?
C'est exactement.
C'est
ce qu'on appelle la marque blanche. Et sinon, il y a la fabrication à façon qui consiste à créer vraiment un produit de A à Z, personnalisé en fonction, comme vous le disiez, d'un cahier des charges établi par le client. Et en fonction de sa marque, de sa charte graphique, etc. On peut vraiment. Et donc, c'est un vrai travail de recherche, mais c'est un vrai travail qu'on fait vraiment main dans la main, où on va développer une formule. Mm-hmm. Et que par la suite, la personne va pouvoir soit commercialiser si c'est parce que je travaille aussi avec des commerçants, etc. Donc, et donc pour l'hôtellerie, on peut partir sur un produit vraiment personnalisé à 100%.
D'accord,
surtout sur les produits de haut de gamme, il n'y a pas que le produit du coup.
Et oui,
il y a un travail sur le packaging
réalisez aussi sur
ça.
Demande. D'accord,
voilà. Donc, c'est vraiment des projets clés en main.
Oui,
et donc là, c'est vrai que je cherche à développer toute cette partie-là, travailler avec les pros, parce que le fait de travailler pour les autres, c'est vraiment ce que j'adore faire.
Et donc, dans l'ombre, comme vous disiez, mais vraiment, c'est vous qui impulsez, qui.
C'est ça.
Quel rôle majeur, tout en discrétion.
C'est exactement ça. Ça, j'adore ça. Et puis donner vie, en fait, au projet des autres. Ça, c'est vraiment. C'est ce que je recherche. Et donc, l'idée, c'est. Alors. Parce que je cherche à développer la savonnerie, mais j'ai quand même mon atelier de menuiserie, donc c'est de travailler avec les wedding planners, etc.
Et les mariages aussi, je parle en termes très marketés, mais segment aussi intéressant
parce que
pour
peux,
vous.
Je peux proposer, au-delà de proposer des petits cadeaux individuels, il y a aussi tout le travail de présentoir, etc., que je peux aussi proposer. Donc, c'est vraiment... ils n'ont pas besoin d'aller chercher plusieurs interlocuteurs.
Et ça, c'est vrai qu'il y a ce côté, en effet, très pratique. C'est-à-dire que vous êtes susceptible de faire, malgré tout, les présentoirs.
C'est ça.
Donc, c'est un produit vraiment clé en main, complet, que l'on soit, comme vous dites, wedding planner. Je ne sais pas si j'ai l'accent, mais... Ouais. Ou en tout cas, propriétaire de gîte.
C'est ça, même pour l'hôtellerie, par exemple.
Plutôt de luxe, en tout cas, qui a un certain... un petit budget, on va dire. Parce que bon, la qualité se paye. Hein.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait. Donc c'est ce qui me différencie des autres savonniers, c'est vraiment cette possibilité de proposer vraiment un package.
Tout à fait. Alors, quels sont... là, vous avez plein de projets et plein de... Mais est-ce qu'il y a... est-ce que vous avez des projets de développement Vous faites déjà beaucoup, beaucoup de choses. Ou alors, vous avez des perspectives à moyen, long terme, ou déjà continuer comme ça, et c'est déjà très bien.
Alors, c'est vrai que j'aimerais vraiment beaucoup plus développer la savonnerie.
Oui.
En fait, mettre la même énergie que j'ai mis à parce que j'ai travaillé avec quasi 80% des savonniers en France.
Mm-hmm,
d'accord. Je travaille aussi à l'international.
Oui, mais, oui, tout à fait. Oui,
et donc, ça a été un vrai accompagnement. Et cette énergie-là, aujourd'hui, j'ai envie de la retranscrire dans la savonnerie, dans des projets vraiment complets où la création de formules,
oui.
Où des savonniers qui n'ont pas forcément le temps, qui veulent développer leur gamme et qui passent par moi, par exemple, pour travailler.
Oui, parce
travailler,
que vous êtes une experte et on fait souvent justement appel à vous parce que vous allez, mais tout en la discrétion. Donc, du coup, c'est eux qui ont un petit peu qui récoltent un peu
oui,
le...
Oui, mais moi,
mais ça vous va, voilà.
Ouais, et puis, c'est ça ce que j'aime.
Oui,
ouais,
oui,
c'est vraiment
oui.
ça ce que j'aime.
Oui, c'est
et donc,
ça.
Je cherche vraiment à développer ça à l'avenir, là. C'est travailler avec, surtout avec les pros.
Oui, oui, tout à fait.
Parce que c'est des projets voilà, sur le long terme. Le particulier, c'est un peu c'est plus volatile, on va dire. Donc,
oui.
c'est plus compliqué. Il faut de la nouveauté en permanence. Il faut,
oui.
Il faut alimenter.
Oui.
Travailler avec les pros, c'est vraiment des projets sur du court, moyen, long terme.
Une fidélisation aussi.
Et puis, il y a une confiance qui s'établit. Enfin, voilà, c'est un vrai partenariat.
Je vous comprends. Oui.
Donc, l'hôtellerie, par exemple, pouvoir travailler sur du produit personnalisé en petit cadeau. Et puis, en même temps, quand on me dit est-ce que tu peux refaire les trucs de porte oui, je peux.
Vous pouvez.
Donc, c'est ça ce que j'aime, en fait.
Je
cherche vraiment plus à développer la personnalisation.
Ouais. D'accord. Mais plutôt sur des quantités, pas forcément à échelle, on va dire, de professionnels, d'un gîte, d'un commerce.
Oui.
Alors, la question un petit peu, pas loin d'être la question finale, parce que le temps file vite, hein, mais justement, c'est le problème quand on est justement le cadre d'un échange vraiment stimulant et passionnant, parce que vous avez vraiment un parcours très, très atypique et dans le bon sens du terme. À quoi reconnaît-on un bon savon artisanal? Par exemple, moi qui n'y connais rien, mes collègues aussi.
Alors déjà,
il
y a quelques indices. Un bon savon artisanal, déjà, il ne sera pas parfait visuellement. Mm-hmm. Parce que, comme je vous dis, ça ne passe pas dans les machines. Donc, il aura forcément quelques petits défauts visuels. Le savon artisanal, au toucher, il est beaucoup plus gras. Puisque nous, il contient toute la glycérine.
Oui.
Alors que le savon industriel, il la retire pour la vendre que cosmétique à part,
parce
que ça coûte très cher sur le marché.
D'accord.
Et,
oui.
Et après, ils en rajoutent un petit peu pour dire qu'il y a de la glycérine, mais en soi, ils la retirent.
Oui.
Donc, nous, nos savons seront beaucoup plus gras au toucher.
Mm-hmm.
Et puis, oui, surtout, visuellement, vraiment, un savon trop lisse.
Mm-hmm.
Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment lisez les étiquettes.
Mm-hmm. Voilà, comme dans l'industrie agroalimentaire, il faut faire
ça.
Pareil pour les cosmétiques.
C'est exactement ça. À partir du moment où ça commence par sodium palmate, c'est de l'industriel.
Ça marche. Merci Julie. Alors excusez-moi de vous avoir.
Il n'y a pas de souci.
Je sens que malheureusement ça touche à son terme, mais ce n'est qu'un au revoir.
Oui,
Julie, une dernière
merci
petite
à
chanson,
vous.
Je crois, que vous avez choisie.
Oui. Oui, qui est assez représentatif aussi, c'est Anxiety de Doshi.
Ok, ça fait partie de la vie d'entrepreneur.
Anxiety, c'est ça.
Merci beaucoup, Julie.
Merci
au plaisir.
À vous.
À très bientôt.
À
merci
bientôt.
Encore. Au revoir.